Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez l'impression de courir dans tous les sens? Alors, je sais qu'on n'a pas tous la capacité de courir, mais c'est une expression. Je me rappelle quand je suis arrivé sur Paris il y a 4 ans à peu près, que j'avais vraiment l'impression de courir dans tous les sens. Tellement d'activités, tellement de possibilités, de rendez-vous à faire, de choses qu'on peut faire. Aller à un repas, aller visiter des amis, etc., etc. Et c'est un phénomène physique extérieur. Mais est-ce que ça ne reflète pas quelque chose de profondément intérieur? Une envie de nos cœurs de courir dans tous les sens. Et c'est vrai, on a des cœurs qui sont quelque part insatisfaits et qui n'arrêtent pas de courir. Il y a quelques années en arrière, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Lucas. J'ai changé son nom. Et pour le dire clairement, c'était un véritable coureur de jupons. Son cœur était toujours insatisfait, toujours en train de courir vers une nouvelle femme plus jolie, une nouvelle femme idéale. Mais dès que sa compagne actuelle voulait stabiliser la situation, il s'engageait plutôt sur le long terme, il prenait la fuite, il ne pouvait pas le supporter. Et c'était les relations avec les femmes, c'était devenu en quelque sorte la seule chose qui puisse lui donner un sens à sa vie, qui lui puisse lui permettre de s'épanouir, de trouver de la joie. Au final, c'était jamais assez. C'était quelque part devenu son Dieu. Et il courait dans tous les sens pour servir ce Dieu-là. Timothy Keller, on peut mettre la situation, qui est un pasteur et puis philosophe, il est décédé il y a quelques années, a largement fait connaître l'expression les idoles du cœur dans un livre du même nom. Voici ce qu'il écrit. Il parle de deux philosophes du XXe siècle. Ernest Becker a écrit que notre culture remplacerait Dieu par le sexe et le romantisme. Plutôt encore, Friedrich Nietzsche avait une théorie différente. Il a écrit qu'en raison de l'absence croissante de Dieu dans la culture occidentale, nous remplacerions Dieu par l'argent. Le sexe, le romantisme, l'argent, le travail, le pouvoir, le contrôle, la famille, les enfants, le ménage, tous peuvent devenir nos dieux, que nous aimons et en qui nous faisons confiance, et pour lesquels nous courons dans tous les sens. Cependant, comme le dit Keller aussi dans ce livre, toutes ces idoles auxquelles nous nous attachons, je ne sais pas quelle est la vôtre, sont avides de sacrifices. Un jour, Lucas, mon ami, m'a avoué qu'il était rongé par la culpabilité. Il m'a dit, il faut que j'arrête, je fais n'importe quoi. Il avait vu tellement de cœurs, de femmes brisés, pleurés, en colère. Sa réputation avait été salie dans la boue parce qu'il avait vraiment fait n'importe quoi en même temps. Des cœurs sacrifiés, des relations brisées, une réputation sacrifiée. Tout ça sur quoi? Sur l'autel de son plaisir avec les femmes. Mais malgré ça, il pouvait jamais s'arrêter de courir, jamais, toujours insatisfait. Je ne sais pas exactement ce qu'il espérait trouver dans ses relations, aucune idée. Peut-être une sensation de garder le contrôle, alors qu'il avait vu sa famille, quand il était jeune, voler en éclats. En tout cas, je sais quelle est la chose après moi à laquelle je cours, à laquelle mon cœur a tendance à aller. Et je vais vous le dire clairement, c'est l'approbation. L'approbation de vous tous ici présents. Quand je prépare ma prédication, si je suis stressé, c'est parce que je me dis qu'est-ce qu'ils vont penser? Mon cœur, il est là. C'est pour ça que je suis poussé vers le perfectionnisme. Et je ne cours pas forcément d'une femme à une autre pour avoir ce sentiment-là, mais plutôt, voilà, c'est d'une prédication à une autre, un ministère, un travail, que sais-je. Après quoi, mon frère, ma sœur, es-tu en train de courir ce matin, mais qui, malgré ça, ne pourra jamais te satisfaire? Et peut-être que tu as couru toute ta vie. Peut-être que tu as même couru une longue vie. Il y a un Dieu qui nous voit courir, qui te voit courir. Et nous découvrons dans notre texte ce matin le vrai Dieu. Pas de ces idoles qui nous satisfassent jamais. Le vrai Dieu, celui qui peut vraiment combler ton cœur. Et voilà ce qu'il te dit. Le vrai Dieu veut ton cœur. Arrête d'aller voir ailleurs. Mais qui est-il, vous me direz? Qui est ce Dieu? À quoi ressemble-t-il? Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir son identité. Et peut-être me demanderas-tu, mais que veut-il de moi? Et nous verrons que, comme dans toute relation, il met des conditions. Et enfin, nous verrons que ces conditions, nous ne pouvons pas les les relever, alors lui, il se sacrifie pour le faire à notre place. Quel est ce Dieu ? L'identité de Dieu qui voit les hommes courir dans tous les sens et qui veut ton cœur. Il y a quelque temps de cela en arrière dans notre société ou dans les sociétés chinoises, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on voulait marier un jeune homme d'une famille à une jeune femme, ils ne se rencontraient pas. On organisait tout dans les coulisses. Et imaginez que ça vous arrive. Imaginez que vos parents décident de vous marier avec un jeune homme ou une jeune femme. Tout est décidé pour vous, ça y est, c'est le grand jour. Vous allez enfin rencontrer la personne avec laquelle vous allez passer le reste de votre vie et connaître l'intimité la plus intime, profonde, intense. Ça y est, il est derrière la porte, vous avez certainement les papillons dans le ventre. Est-ce que vous allez l'aimer ? Quelle est la première chose que vous allez observer attentivement ? Est-ce que c'est ses yeux, sa stature, sa voix que vous allez écouter ? En tout cas, la première chose la plus importante que vous allez faire, c'est certainement regarder, faire le bilan, constat, à quoi il ressemble. Voici le premier jour de la première rencontre pour la jeune fille qui s'appelait la communauté d'Israël. Dieu est descendu sur la montagne pour la rencontrer. Et Dieu est terrifiant. Imaginez la scène. Vous êtes là, en plein milieu du désert, entouré de tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, serrés les uns contre les autres, au pied du sommet d'une montagne qui surplombe à plusieurs centaines de mètres au-dessus de vous. C'est le matin, mais c'est la nuit noire. Le ciel est rempli de nuages, comme l'encre, aucune lumière ne traverse. On se croirait le soir. Et le tonnerre gronde dans l'atmosphère, le vent souffle au travers de vos vêtements. Et le peu de lumière qu'il y a, ce sont les éclairs qui zèbrent le ciel et qui éclairent par moments le visage des gens autour de vous qui sont effrayés, qui sont paniqués. Des hommes et des femmes et des enfants qui sont agglutinés en train de fixer les yeux sur cette montagne. Et tout à coup, dans l'air, un bruit profond éclaire. Des trompettes commencent à rugir de plus en plus fort et nos cœurs se remplissent d'épouvante. Et sur la montagne, que voit-on ? Rien. Uniquement de la fumée, une fumée si épaisse et dense qui s'élève au-dessus de la montagne. Pourquoi la montagne est devenue une véritable fournaise ardente ? Dieu est esprit, on ne le voit pas. Il n'a pas de corps, mais sa simple présence a complètement embrasé la montagne. Et la terre sous tes pieds tremble. Elle tremble, en fait, c'est toute la montagne qui tremble. Le cœur de nous tous est rempli d'une seule et unique certitude. Dieu est là. Et en cet instant, cette montagne pourrait exploser et nous souffler comme des brindilles. La terre pourrait se retourner sous nos pieds et nous écraser. Terrifiant. Communauté de Saint-Maur, jeune fille de Saint-Maur, voilà notre Dieu, un Dieu cataclysmique, un Dieu terrifiant. Ce Dieu est réel. Ce Dieu est réel. Ce Dieu est réel. Il parle, il te parle. Et le sol sur lequel nous tenons, il pourrait le rouler comme un manteau. Pour lui, cet univers est comme une maquette de modéliste dans un garage. Voici ce que la jeune fille voit et entend lors de cette première rencontre. Un Dieu terrifiant. Mais il n'est pas venu pour ravager la terre. Il est venu pour autre chose. Il est venu pour avoir une relation avec nous. Une relation avec toi et moi. Parce que c'est un Dieu aimant. Voici comment ce passage. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. L'expression « alors Dieu prononça toutes ces paroles » est une expression typique que l'on retrouve dans les traités d'alliance du Moyen-Orient pour établir une alliance entre deux pays, un pays suzerain et un pays vassal. C'est exactement comme une alliance de mariage. On va signer des papiers, on va passer les alliances au bois et on va rentrer dans une relation avec des règles qu'on va respecter. Et cet engagement stipulait que le pays suzerain allait protéger, prendre soin du pays vassal. En fait, ce qui va se dérouler, c'est rien de moins que l'établissement d'une alliance entre un Dieu terrifiant qui veut prendre soin d'un peuple qu'il aime. Mais c'est le début d'une relation entre des êtres extrêmement limités et un être absolu, grand. C'est comme si un éléphant voulait devenir l'ami d'une fourmi. C'est comme si une montagne voulait prendre un œuf dans ses bras. C'est comme si le soleil voulait danser avec des brindilles. Le contraste est extraordinaire. Pourquoi est-ce que nous sommes là, jeune communauté d'Israël, devant cette, au, tremblant au pied de cette montagne en feu tétanisée par la voix de l'être absolu? Pourquoi nous sommes là ce matin? Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut une relation. Revenez à la scène de la première rencontre avec cette personne que vous allez passer votre vie avec le fiancé. C'est le moment. Il va parler. Pour la première fois, vous allez entendre cette voix que vous entendrez tout le reste des journées de votre vie. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et sa voix est comme le tonnerre qui gronde. C'est comme ce Dieu lui disait, tu ne me connaissais pas encore, fille d'Israël. Aucune alliance n'avait été faite. Aucun engagement n'avait été passé. Tu n'avais rien à faire, mais j'ai entendu tes gémissements. J'ai entendu tes cris de douleur. J'ai entendu ce que tu as subi. Et je suis descendu pour te délivrer. Je suis descendu pour te délivrer parce que je t'aime. Cela n'a rien à voir avec ce que tu as fait. Aucune condition. Mais je t'aime à cause de ton ancêtre Abraham. Et au final, c'est ce qui motive Dieu. Un Dieu terriblement terrifiant, mais aussi incroyablement aimant. Je t'aime et c'est pareil pour nous. Nous n'avons rien eu à faire. Il est venu nous chercher. Il est descendu. Il est venu nous sauver. On n'avait encore rien fait. Ce n'est pas à cause d'une bonne conduite qu'on aurait fait. Rien du tout. La libération, le salut de Dieu pour toi, pour moi, ne dépend pas de mes prières, de mes chapelets, ne dépend pas de mes bonnes actions. Rien du tout. Avant cela, il est venu et il est descendu. Il nous sauve d'abord. Et ensuite, il nous donne des conditions pour obtenir et vivre et entretenir une belle relation. Mais comme pour toute relation, il y a des conditions. Super travail. Anticipation. Voici les conditions du Dieu qui veut ton cœur. Parfois, on a l'impression que ce qu'on appelle les 10 commandements, c'est comme des règles qui nous écrasent et qui nous privent des libertés. Mais en fait, il y a des conditions dans tout type de relation. Quand un mari se marie avec son épouse, tu dois être fidèle. Si tu commences à aller courir à gauche et à droite, tu ne respectes pas les conditions intrinsèques au mariage. Si tu as des enfants, il y a des conditions dans la relation avec des enfants, tu ne dois pas les abandonner. Et avec tes amis, tu dois les respecter. S'établir dans une relation implique forcément des conditions. Si tu ne respectes pas les conditions, la relation ne tient pas. C'est juste normal. Et ce Dieu qui vient trouver son peuple met des conditions pour pouvoir habiter à lui, pour qu'ils puissent emménager ensemble quelque part, pour qu'ils puissent partager la présence de l'un et de l'autre, être dans cette intimité. Voici le Dieu qui énonce ces conditions pour être avec son peuple. Malheureusement, des conditions que la jeune fille, qui est le peuple d'Israël ou qui est l'Église, ne parvient pas à tenir et qu'aucun de nous, malheureusement, n'a réussi à tenir cette semaine. La première des conditions, c'est l'exclusivité. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Pourquoi est-ce que Dieu dit cela? Comment est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres dieux? Est-ce qu'il n'y a pas un seul Dieu? Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Éternel. S'il n'y a qu'un seul Dieu, alors qu'est-ce que l'Éternel veut dire par « tu n'auras pas d'autre Dieu » si ce n'est les dieux que nous choisissons d'avoir pour Dieu, les dieux que l'on adore. Quels sont tes dieux? C'est la personne ou la chose ou le travail ou le loisir devant laquelle tu te prosternes, tu t'inclines, tu te soumets. C'est ce sur quoi tu concentres tes pensées, tes émotions, tes paroles. C'est ce pourquoi tu vis. Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? Pour ton travail, pour ta famille. Voici le Dieu de ton cœur. Et Dieu te dit, non, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Moi, je suis ton Dieu. Il n'y aura personne d'autre au-dessus de moi. Non, tu m'appartiens. Dieu dit, pas d'autre Dieu devant moi. On se présente devant Dieu tous les matins, mais en réalité, on est tout le temps devant lui. Rien n'est caché devant lui. Il lit au plus profond de nos cœurs, des pensées de nos cœurs. Ses yeux voient tout, ils entendent tout, même nos pensées les plus profondes. Je lis en Hébreux 4, rien n'est caché devant lui. Tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Il voit tout. Dieu voit très clairement dans mon jeu, même plus clairement que moi. Il voit les jours où je me lève et le Dieu que je sers, ce n'est pas lui. Le Dieu que je sers, c'est mon ministère. Le Dieu que je sers, c'est mon travail. Le Dieu que je sers, c'est ma fiancée ou ma femme ou mes enfants ou mon argent. Dieu voit très clairement dans mon jeu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il te le dit ce matin. Ma condition, c'est l'exclusivité. Et sa deuxième condition, c'est la fidélité. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Quelle est la différence avec le premier commandement ? Ça y ressemble. Cette fois, il ne s'agit pas uniquement de ce qu'il y a dans ton cœur, mais c'est ce que tu vas fabriquer avec tes mains. C'est ce que tu peux voir avec tes yeux. C'est ce que tu peux toucher avec tes mains. C'est ce que tu peux sentir avec ton nez, ce que tu peux entendre avec tes oreilles. C'est quelque chose, en plus, que Dieu a créé. Quand on lit ce texte, ça inclut toute la création, absolument tout. Tout peut devenir une idole que l'on voit, que l'on touche, que l'on sent. Ce sont les paroles de louange, les compliments que tu entends quand tu as fait du bon travail et tu cours après ça. Ce sont les chiffres que tu regardes sur ton compte en banque et auxquels tu repenses et tu repenses et tu repenses. Ce sont les photos et les vidéos de corps parfaits que tu admires en boucle sur les réseaux sociaux. Ce sont les corps des femmes ou des hommes que tu désires à longueur de journée. Ce sont les produits que tu convoites, les produits de beauté, les produits de la maison, les produits de décoration et dont tu veux remplir ta maison, peut-être pour être rassuré ou te sentir bien. Ce sont les gadgets que tu achètes. C'est le frigo que tu ne peux pas t'empêcher de toucher dès que tu es stressé. Ce sont tes enfants que tu souhaites serrer dans tes bras pour te réconforter. Tu les entends, tu les regardes, tu les admires, tu les désires, tu les convoites, tu les touches, tu les serres. Ce sont de bonnes choses. Dieu les a créées. Et ce qui est le plus terrifiant, c'est qu'on peut s'en faire une idole et être convaincu qu'on adore l'Éternel. Quelques chapitres plus loin, le peuple d'Israël ne voit plus Moïse, il n'est plus à portée de vue, on ne peut plus le toucher, le voir, le sentir. Fais-nous des dieux. Et à Aaron de dire, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Et le veau devient l'Éternel. Une simple caricature. Et ainsi, de notre bouche, je dis, oui, je sers l'Éternel, je suis chrétien, j'appartiens à Dieu, voici mon Dieu. Mais avec mes yeux, avec mes mains, avec mon corps, avec mes oreilles, tu adores toute autre chose. Et Dieu te dit, non, tu ne te feras aucune idole, rien. Rien que tu puisses toucher, voir, attirer ton attention, qui puisse captiver ton amour plus que moi. Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce qui attire ton amour plus que Dieu ? Qu'est-ce que tu aimes ? Dieu a déjà un représentant sur terre qui représente sa gloire. Et c'est toi. C'est toi. Toi, homme, homme et femme, l'homme, la femme à côté de toi, représentant de Dieu sur terre. Censé faire quoi ? Censé pointer vers Dieu, adorer Dieu. Si tu pointes vers autre chose, t'as un panneau indicateur qui ment. C'est comme un panneau qui écrirait Paris mais qui pointerait vers Marseille. Si tu pointes vers tes enfants, ton travail ou l'argent, tu ne remplis pas ta mission. Perds ta raison d'être, pointé vers Dieu. L'exclusivité et la fidélité. Voici les conditions de ce Dieu, si terrifiant, mais si aimant pour son peuple. Malheureusement, j'en suis incapable. J'y arrive pas. Mon idole favorite, l'approbation, refait surface toutes les semaines. Jusqu'à maintenant, cette tentation profonde, elle reste là. Il y a quelques années en arrière, premières années d'études sur l'île, j'ai fait un burn-out en une année. Je voulais prouver au monde que j'étais pas débile, que ma foi avait un sens, j'ai voulu partager ma foi à l'école, que j'étais un bon étudiant. En bout d'une année, rien, ça n'a pas tenu, j'ai pas réussi. Burn-out. Mon approbation, cette idole, est passée à la trappe. Après une année de stage à l'IBG, quand on réalise qu'on fait tant d'efforts et puis que ça avance pas si vite, l'admiration, et quand je prépare encore une prédication, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Nous avons tous des idoles vers lesquelles nous ne pouvons pas nous empêcher de courir. Laisse-moi te demander, est-ce que tu respectes exclusivité, fidélité? Quelle est l'idole vers laquelle ton cœur court? Quelle est la chose qui donne un sens à ta vie? Est-ce que c'est la puissance? L'approbation? La sécurité? Ou le confort? Est-ce que c'est quand tu t'accomplis, quand tu réussis, quand tu fais une mission que personne d'autre n'avait réussi à faire au travail? Où il n'y a que toi pour relever la barre? Quand tu es au contrôle de ta famille? Ou est-ce que c'est quand tu as enfin l'appréciation des gens qui t'entourent, qui sont autour de moi? Ça, c'est la mienne. Est-ce que c'est quand tu es en sécurité physique et émotionnelle, que tu as suffisamment d'argent, de biens, de confort, et que rien ne pourra venir te menacer, et qu'il faut que tu contrôles? Non, on ne va pas dépenser l'argent comme ça. Il faut qu'on fasse attention. Ou alors, il faut dépenser l'argent pour être en sécurité, sécuriser ma réputation. Il faut qu'on ait une bonne voiture. Est-ce que c'est quand tu auras enfin les réconforts, les câlins, les mots de consolation d'un être aimé qui te comprend vraiment? Il te faut enfin trouver le prince charmant ou la femme qui te consolera enfin. Quelle est ton idole? Nous ne pouvons pas le faire, elle est là, elle revient tout le temps. Mais Dieu veut entrer en relation avec nous quand même. Et comme nous ne pouvions pas le faire, quelqu'un d'autre l'a fait pour nous. Voici son sacrifice. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dans une relation, il y a deux types de jalousie. Il y en a une qui est légitime et une qui n'est pas légitime. La jalousie légitime, c'est que tu aimerais avoir quelque chose que ton prochain a, mais ça ne t'appartient pas. J'aimerais avoir cette voiture qu'il a. Ah là là, elle me donne envie. J'aimerais avoir la femme qu'il a. J'aimerais avoir les enfants ou le travail qu'il a. Mais il y a la jalousie qui est légitime. C'est quand tu désires et tu aimes quelque chose qui t'appartient exclusivement. C'est ma voiture, mais il est en train de me la voler. Il était jaloux de lui, mais c'est normal. C'est ma femme qu'il est en train de caresser. T'es jaloux? C'est normal, c'est ta femme. Il y a la jalousie qui est légitime. Et Dieu te dit, je suis jaloux de qui tu es. Je suis jaloux de tes pensées, je suis jaloux de tes actions, je suis jaloux de tes activités. Tu m'appartiens totalement. À qui est-ce que tu vas donner tout ça? À quelle idole est-ce que tu vas donner tout ça? Et parce qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrête pas d'aller voir ailleurs, le Dieu si terrifiant qui pourrait nous écraser et nous punir, au contraire fait preuve d'une bonté. Une bonté sans égale. C'est le contraste de ce verset. Il punit sur 4 générations, mais sa bonté sur 1000 générations. Qu'est-ce qu'il est bon? Même s'il voit sa fiancée aller batifoler ailleurs, il va aller jusqu'au bout du monde pour aller la rattraper. Jusqu'au bout du monde pour parler à son cœur. Jusqu'au bout du monde, jusqu'au là où on en est aujourd'hui pour nous parler. C'est ce qu'il a fait avec Israël, comme il le dit au travers du prophète Osée. Israël qui n'a pas cessé de retourner voir ses idoles. Osée 2, elle se parait de ses anneaux, de ses colliers, elle suivait ses amants, tandis que moi, elle m'oubliait, déclare l'Éternel. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, je veux parler à son cœur. La bonté de Dieu, la jalousie de Dieu pour son peuple, pour nous, pour toi et moi. Et c'est à cause de sa bonté qu'il est venu. qu'il est descendu plus bas que la montagne, qu'il est venu habiter sur la terre pour que nous puissions le faire. Ce que nous ne pouvions pas faire, être fidèles, exclusifs, être en relation avec lui, lui l'a fait. Le Dieu que nous ne pouvions pas voir, le Dieu qui faisait brûler la montagne a pris forme humaine. Il est devenu un bébé. Le Fils est l'image du Dieu invisible, Colossiens 1,15. Il a marché parmi nous en tant qu'homme, parfaitement fidèle, parfaitement exclusif. Il n'a jamais adoré aucun autre Dieu que Dieu. Et il est le seul homme qui a vraiment aimé Dieu, le Père, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Il l'a fait dans toutes ses actions, dans tous ses regards, dans toutes ses priorités. Lui l'a fait. Il a fait ce que nous ne pouvions pas faire pour que nous puissions le faire. Et enfin, il est monté sur la montagne. Une première fois pour donner à son tour ses conditions, Matthieu 5, 6, 7, le sermon sur la montagne. Dieu est là. Et une deuxième fois pour les accomplir parfaitement. Là, à la croix, sur Golgotha. Cet amour extravagant, l'amour de son amour infini, cette gloire infinie manifestée là, entre deux pécheurs, les clous dans ses mains, suspendus à une croix. Il a été fidèle jusque-là pour toi et moi. Il a pris la punition de notre infidélité à notre place. L'amour de Dieu terrifiant manifesté pour toi et moi à la croix. Oui, ce Dieu t'aime à ce point-là. Ce Dieu terrifiant t'aime à ce point-là. Et il n'a pas seulement accompli ce qu'on ne pouvait pas faire. Il n'a pas seulement payé le prix pour ce que nous n'arrivions pas à faire, mais il a changé nos cœurs. Si tu lui donnes ta vie, son esprit vient, il change ton cœur, il te donne la capacité aujourd'hui d'habiter en lui, de demeurer en lui et d'être fidèle et exclusif. D'être en réelle relation, intimité avec ce Dieu-là. Son esprit est en toi. Alors quand le stress vient de dire il faut que je fasse bien, il faut que ce soit parfait, sinon ils ne vont pas m'aimer. Quand le feu vient parce qu'il faut accomplir cette mission et que si tu le fais bien, les gens vont t'encenser, tu auras le sentiment d'avoir réussi. Quand la tentation vient de contrôler ton argent parce que tu as peur de ne pas avoir assez pour demain ou pouvoir prendre soin de tes enfants, pense à Jésus. Pense à Jésus qui a précisément comblé tous ces besoins de ton cœur. Qui te dit, tu n'as pas besoin de chercher l'approbation, tu es mon fils bien-aimé. En Jésus, tu es mon fils bien-aimé, tu as déjà toute mon approbation. Tu n'as pas besoin de chercher à t'accomplir par la réussite, tout est accompli. Christ l'a accompli. Pourquoi chercher à accomplir encore? Tu n'as rien à prouver. Quand tu cherches la sécurité, Dieu est ta sécurité. Il a acquis ta sécurité éternelle à la croix. Voilà le Dieu terrifiant, aimant, fidèle et exclusif pour nous, pour que nous puissions l'être. Je conclus. Le Dieu de la montagne en feu t'aime profondément. Et il est tellement jaloux de toi. Il est jaloux. Il est jaloux de ce que tu fais avec ta vie. Il est jaloux de ce que tu regardes, de ce que tu fais avec tes mains, de ce que tu fais avec tes yeux, avec tes oreilles. Tu lui appartiens. Et il pose pour toi les conditions pour être en relation avec lui. Lui être fidèle et exclusivement à lui. Et les 8 autres conditions qui vont suivre, en fait, sont les déclinaisons beaucoup plus pratiques de ces 2 déclinaisons. Et la première est, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain. Et malheureusement, on va cocher les cases hein, au fur et à mesure des semaines qui vont venir, mais on ne les coche pas bien. Dans tes pensées, dans tes actions, dans tes loisirs, dans ton travail, ne prends pas le nom de Dieu comme s'il était vide, comme s'il n'avait pas d'influence, comme s'il était léger, comme s'il était vain. Si tu aimes ta femme, tes enfants, ton travail, plus que Dieu, tu prends le nom de l'Éternel en vain. Tu ne considère pas son poids, son importance, sa réalité. Yahweh, je suis sa réalité. À la juste valeur, au juste poids, la juste importance qu'il doit avoir dans ta vie. Alors ne prenons pas le nom de l'Éternel en vain cette semaine. Ne vivons pas comme si ce Dieu était vide. Ne vivons pas comme si ce Dieu ne faisait aucune différence. Aime Dieu de tout ton cœur. Change ta vie. Consacre-lui toute ta vie. Passe le reste de ta vie à vivre d'une manière qui montre que le nom de Dieu est plus important que toute chose, qu'il n'est pas léger pour toi. Le vrai Dieu veut ton cœur, tout ton cœur. Alors arrête, arrêtons. Je m'inclus largement dedans, d'aller voir ailleurs. Je termine par la prière. Seigneur, pardon, parce que j'oublie souvent que tu es un Dieu au-delà de ce que je peux penser. Je ne peux pas te mettre dans une boîte. Tu es un Dieu terrifiant. Et de réaliser que tu m'aimes, c'est à ce point-là, me touche. Et je prie, Père, que nous puissions vivre toute notre vie avec fidélité. Seigneur, qu'on puisse se lever le matin pour toi, pas pour autre chose. Seigneur, transforme nos cœurs. Tu l'as fait à la croix. Transforme nos cœurs. C'est possible. Seigneur, je t'en supplie. Transforme mon cœur. Toujours plus. Amen.